Donc nous allons démarrer. Merci d'être là. Nous avons aujourd'hui une rencontre assez exceptionnelle en fait parmi les quatre, et c'est donc la dernière des rencontres auteurs traducteurs regard croisé. Et elle est exceptionnelle car la relation qui unit Norman et Sylvie sur ce travail de traduction de l'œuvre de Norman est assez unique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et le jeu, un petit peu pour moi, lorsqu'il s'est agi d'organiser ces rencontres, enfin d'animer ces rencontres, eh bien, c'est de faire que justement devant vous, éventuellement, ils se parlent le plus possible. Donc, j'interviendrai le moins possible, dans la mesure de mes moyens. Alors, nous avons donc ici Norman Spinrad, auteur qu'on ne présente plus, mais que Sylvie va tout de même, sur lequel Sylvie va quand même nous fournir une petite introduction. Et ensuite, je demanderai à Norman s'il a lui aussi une manière d'introduction sur Sylvie, éventuellement, je pourrai compléter. Alors, Sylvie, que pourrais-tu nous dire de Norman Spinrad que nous avons rencontré pour la première fois toutes les deux, je crois, il y a plus de 25 ans?
Oui, tu l'as déjà dit, on ne devrait pas avoir besoin de le présenter, mais on va quand même le faire. Comment dire, c'est quelqu'un qui a écrit certains des livres les plus importants d'une certaine période de la SF américaine, c'est-à-dire quelque part la fin des années 60 et le début des années 70, à un moment où un certain nombre d'auteurs, dont Mike Moorcock avec New World, Harlan Ellison et d'autres, remettaient en question ce qu'ils considéraient alors comme étant la vieille SF de papa, et où il voulait unir, faire entrer dans la SF les processus de la littérature qui jusqu'à présent avait été connue certes, mais pas très employée. Et pour moi, c'est un auteur que j'ai lu à partir de l'âge de, on va dire, 13-14 ans. Voilà.
Et donc, qui a formé ton esprit de lectrice,
mon mauvais goût radical dans tous les domaines.
Et ton futur statut d'auteur également.
Oui.
J'imagine que l'admiration que tu portais à l'œuvre de Norman, puis à Norman.
En fait, j'ai le souvenir assez distinct d'avoir lu Les Solariens, donc je devais avoir, je pense, 14 ou 15 ans. Et d'avoir écrit une de mes premières nouvelles après avoir lu Les Solariens. Et je pense que pendant un certain temps, les gens dans les nouvelles que j'écrivais n'arrêtaient pas de boire des cocktails des neuf planètes. Parce que quand on a 14 ans, c'est le genre de détail qu'on retient.
Alors Norman, comment présenterais-tu Sylvie si tu avais à le faire? Et si tu acceptes de le faire, nous serions ravis d'entendre quelle est... Voilà. Comment présenterais-tu Sylvie à cet auditoire si tu devais le faire? Wow.
C'est une longue histoire. Oh, je votais pour le bon anglais ou le mauvais français.
Ah oui,
ou
le vote.
Peut-être le mauvais anglais et le bon français, je ne sais pas.
Vous préférez que Norman s'exprime en français anglais et traduction? Allez, mise au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour le mauvais français? Qui est pour le bon anglais traduit? Bon, voilà, you have to speak English, sorry.
Hey, there you go.
Anglais.
Anglais. Well, or peut-être anglais. Or peut-être un mélange de les deux.
Maybe a mix.
Well, the Rubaiyat of Omar Khayyam, famous poem, the thing that everybody knows is the translation by Fitzgerald of Omar Khayyam's poem, which is definitive.
Donc, il y a le Rubaiyat de Omar Khayyam. Tout le monde connaît, en fait, la traduction de Fitzgerald.
But the original translation, the more correct translation, correct academically,
mais la meilleure traduction académique,
is not nearly as good.
Est beaucoup moins bonne.
And everybody has forgotten it.
Et tout le monde l'a oublié.
Because the reality of this is that if a book of mine is translated from English into French or German into or Russian or whatever, what the people are reading is the translation.
Et donc, si un de mes livres est traduit en français, en allemand ou quoi que ce soit, ce que lisent les gens, c'est la traduction.
So I think And one of the reasons I recommended you and Brolon for some of these books, I think starting with Bleu comme un orange, a title I detest, by the way.
Et donc, ça commence justement avec Bleu comme une orange, un titre que, d'ailleurs, je déteste.
Et c'est pour ça qu'il a
recommandé. Not the book, the title.
C'est le titre, pas le livre.
I think that someone who is also a fiction writer in their own language is going to end up doing a better translation.
Alors, je pense que quelqu'un qui écrit la fiction dans sa propre langue va faire une meilleure traduction, à mon avis.
Because a translation, I think, is really an interpretation.
Parce qu'une traduction, c'est une interprétation.
Just as the Omar Khayyam by Fitzgerald was not as nearly as technically true to the original Farsi as the academic thing, but it was much better because it was written by a poet who understood what Khayyam was doing. And so that's why I think about, you know, that's one of the things that I like about the relationship, you know, with Sylvie. Sylvie is a novelist too. I think you get, not always, but not to put down people who are just translators.
Donc, en fait, c'est pour ça que je trouve que la traduction de Fitzgerald d'Omar Khayyam, c'était quelque chose qui était une interprétation, c'était quelque chose qui rendait beaucoup plus réellement le sentiment du poète, que, parce que Fitzgerald lui-même était poète, qu'une traduction littéral, académique, des mots qu'il y avait avant. Et c'est pour ça que la relation avec Sylvie, c'est très important parce qu'elle-même, elle est romancière.
Oui. Je voulais juste préciser que Bleu comme une orange, c'est pas moi qui l'ai traduit, c'est Roland Wagner. Et que les ouvrages suivants, Il est parmi nous... et Le temps du rêve, c'était des traductions qu'on a fait ensemble. Et le titre, le choix de Bleu comme une orange, je pense qu'il n'était pas de Roland, il était de l'éditeur.
Oui,
paix à son âme.
Le choix de Bleu comme une orange était de Jacques Chambon, qui était une référence francophone dans laquelle Norman ne s'était pas reconnu à l'époque.
Avec Jacques Chambon.
Oh. Bleu comme une orange, yes. The title
Yeah, c'est pas moi. Non.
Yeah, it's not my title.
C'est Jacques Chambon, c'est pas mon title. C'est une chose qui existe pour beaucoup de romans français. Titles are not too well done.
Très souvent, les titres sont mal traduits. Hein.
But sometimes they're better. For instance, The Mind Game, which I don't think you translated, The Mind Game became Miroir de l'Esprit.
Donc, des fois, ça marche beaucoup mieux. The Mind Game, je crois que le titre qui a été donné, Miroir d'Esprit, ça marche très, très bien.
Now, if you translate Miroir de l'Esprit and try and translate back into English, it doesn't work.
Et si on veut retraduire vers l'anglais, ça ne marche absolument pas.
So there are a lot of things like that. I was seeing the panel with Paolo Bacigalupi, where somebody was saying about the thing being that the thing is that you have to translate the novel into the culture of the different audience in a different language.
Ouais, donc j'ai été sur un panel avec Paolo
Bacigalupi,
et où l'idée c'était qu'il fallait traduire le roman par rapport à la culture vers laquelle on traduit.
Well, I don't agree with that.
Je suis pas d'accord.
At the highest literary level, and particularly for something like speculative fiction or science fiction, What you really want to do is be able to take the consciousness of one culture that you're writing in and have readers in a different culture get that level of it too. Not to translate the cultural trivia of English into some similar French thing, and you end up with very bad rock stars.
Donc je pense en fait que ce qu'il faut faire, c'est de partir d'un niveau très élevé, et on prend cet élément-là dans son livre, et l'idée n'est pas de le traduire, de le prémâcher pour le lecteur d'une autre culture, mais c'est de permettre à ce lecteur de pouvoir se nourrir justement du même niveau. Sinon, on va avoir quelque chose qui se traduit par des mauvais rockstars en quelque sorte. Alors, quand je lis un roman en français, ce qui m'arrive,
I don't want to read something that's Americanized.
Je ne veux pas lire quelque chose d'américanisé.
A really successful book. I'm thinking of Roland's
Rêve de gloire.
Rêve de gloire. Et...
Yeah, Rêve de gloire. Now that is a book that is written in about 5 or 6 different French argots.
Donc voilà, je pense par exemple à Rêve de gloire. Qui
de
est écrit dans 5 ou 6 idiomes français, quoi. C'est...
And not only that, it's in an imaginary alternate universe with a totally different history between France and North Africa.
Donc c'est un univers différent avec des relations différentes entre une France et un Afrique du Nord imaginaire.
And yet. That book put me into that world, so that we were trying to find a way to do it in English.
Mais ce livre m'a vraiment mis dans ce monde. J'étais happé par ce monde. Donc il faut trouver le moyen de faire ça en anglais.
And it really wouldn't work because the culture is an integral part. Of the story.
Et ça ne marche pas parce que la culture est une partie intégrante de l'histoire.
I don't know. You took War and Peace and tried to turn it into something like a contemporary American war book. It would be ridiculous.
C'est comme si on prenait Guerre et Paix et on essayait de traduire ça, de transformer ça, de transposer ça en une histoire de guerre américaine actuelle.
So I think that at the highest level,
donc au niveau
le plus élevé, a great translation has to allow the reader to take on the consciousness of the characters in the culture of which the story is about.
Et donc, une grande traduction doit permettre au lecteur de reconnaître, de prendre, d'accaparer la conscience des personnages, mais dans la culture dans laquelle ça se passe.
Now, this is not a thing that Sylvie translated. This is Jack Baron.
Donc Jack Baron qui n'est pas traduit par Sylvie.
Ah bah non, j'étais trop jeune.
Jack Baron et l'éternité, oui, dont nous parlions il n'y a pas longtemps à propos des élections américaines d'ailleurs.
This was translated by Guy Abadia.
Guy Abadia.
Donc traduit par Guirbardi.
And it was a great translation.
And bonne traduction.
I think at least half the success of that novel, as I have credited, is Guirbardi and not me.
Et la moitié du succès du livre lui appartient à Guirbardi, pas moi.
20 years later, or however many years later, I have Enfant de Fortune, Child of Fortune.
Et donc 20 ans plus tard, il y a L'Enfant de Fortune.
And this is a story, this is a novel written 3,000 years into the future in a civilization where all the languages are mixed together.
Donc c'est une histoire qui se passe dans 3000 ans où toutes les langues sont mélangées.
And Gerard Klein, who was the editor there.
Et Gerard Klein qui était l'éditeur.
Same editor as Jack Baron.
Même que Jack Baron d'ailleurs, c'est le même éditeur.
He said to me, I want to publish this book, but only if we get a body to do the translation. Otherwise, it's impossible. And there had been a translation of a book called Void Captain's Tale, Le Grand something, another terrible French title, which was a very bad translation, and you've never heard of the book.
Et donc, il a dit, je veux absolument avoir le même traducteur. J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Et il y avait aussi un autre livre à l'époque avec un titre encore à coucher dehors qui était très mauvais.
S'il y avait eu que le titre qui était mauvais, ça en aurait déjà été bien. Parce que c'était vraiment...
Ah, la traduction,
oui. Oui, la traduction, c'est une grande catastrophe. Moi, ça...
Donc, Norman, tu as insisté pour avoir Abadia.
Voilà.
Non, c'est Gérard Klein qui a insisté. C'était Klein qui a insisté.
Qui a été primé hier soir, pour ceux qui auraient raté l'épisode. Hein, il a eu une médaille de la ville de Nantes et un prix spécial.
Well, the other thing was with Void Captain's Tale, which is set in the same kind of linguistic situation, they had some translating team. It was more. I don't want to go into the whole horrible story about Philip Morris.
Et avec Void Cap, il y avait une équipe de traducteurs. Donc c'était. Je ne vais pas rentrer dans des détails horribles.
So they asked me, how are we supposed to translate this thing?
Et donc ils m'ont dit, comment on doit faire pour traduire?
And I said, do to French what I did to English.
Et j'ai dit, fais au français ce que moi j'ai fait à l'anglais.
Oui. And they said, we can't do that.
Et ils ont dit, ben on peut pas, nous.
Si, parce
and
que...
And they didn't.
Ça aurait été possible. C'est-à-dire que dans L'Enfant de la Fortune et dans The Void Captain's Tale, ce qui se passe, c'est que, comme le dit Norman, les cultures se sont fondues et les gens parlent une langue qui est basiquement et syntaxiquement de l'anglais à quelques détails près, et qui inclut du vocabulaire de l'allemand, de l'espagnol, du français, etc. Donc transposer cela, c'est faisable. Par contre, ça nécessite un certain travail, du temps, voilà. Qu'apparemment, les gens qui ont été chargés du travail n'ont pas eu, et qui méritent d'être payés correctement aussi. Parfois, ce genre de choses arrive, hélas. Et moi, j'ai toujours été particulièrement déçue de cette aventure-là, parce que, enfin, d'avoir vu le résultat, parce que c'était un bouquin que vraiment, c'était un de mes livres préférés de Norman.
En anglais. En anglais.
Oui, en anglais. Oui. Mais bon, j'espère qu'un jour, il y aura une autre traduction.
Appel aux éditeurs qui sont dans le coin. Ok, moi j'aimerais quand même vous interroger un petit peu plus précisément tous les deux sur la manière dont vous avez travaillé, sur les bouquins sur lesquels vous avez travaillé ensemble, parce qu'il me semble savoir, Norman, que il y a eu quelques échanges, évidemment, entre toi, Sylvie, Roland, etc., mais c'est même allé un petit peu plus loin, puisque je crois que Sylvie a participé à un moment... à un petit brin de lecture pour l'éditrice Lila Sevald, qui aujourd'hui n'est plus éditrice chez Fayard, et à l'époque c'était Fayard, maintenant elle est chez Bragelonne. Mais donc Lila Sevald et
oui,
toi avez travaillé aussi.
Alors en fait, l'histoire commence 10 ans avant. C'est-à-dire que 10 ans avant, j'avais lu He Walks Among Us, il est parmi nous, sur manuscrit. Et j'avais adoré ça, et j'avais fait un article... dans Bifrost, qui devait parler à la fois de Bleu comme une orange et de He Walked Among Us. À la suite de ça, 10 ans se passent, le bouquin ne paraît jamais en français, et Lila Sivas, qui travaillait à ce moment-là chez Fayard, s'y intéresse. Et pour autant que je me souvienne, Norman a dû demander à ce que ça soit moi et Roland qui fassions la traduction. Je ne sais plus qui a fait quoi.
Tu as demandé à Lila Sevald que Roland et Sylvie soient les traducteurs de...
Mon idée, Lila's demandé, whatever language I'm speaking here, en recommandation pour le traducteur. Et c'est ça. How we worked on this,
oui.
I don't remember, because there were different levels of it.
Yes.
I was like a resource.
En fait, il y avait plusieurs couches. Moi, j'étais comme ressource.
So as the translation went on,
donc, au fur et à mesure de la traduction,
what does this mean, or how can I put that in French, or something like that.
Il y avait une question de qu'est-ce que ça veut dire, comment je le mets en français. On en discutait.
Oui, tout à fait.
And then there was a question of a general idea of maybe some changes that would be made chapter by chapter to make it work that way. We discussed the chapters, as I remember, as one after the other.
Puis on a parlé de la question des chapitres la suite, quoi, les uns après les autres.
Je crois que c'était avant où on avait travaillé sur le manuscrit de départ pour essayer de resserrer certains passages. Donc,
an editing in English before the translation.
Voilà, oui.
That Leila did something which I don't think happens very often.
Et donc de faire l'édition en anglais avant, et Leila a fait quelque chose qui n'arrive rarement.
She said, I want you, me, to read, to go over the first three chapters in French.
Elle a
to
dit,
see how you feel about that.
Je voudrais que toi, tu regardes les trois premiers chapitres
at
en
first
français
I said,
pour voir ce que tu en penses.
First, I think she said, I want you to read the whole thing, you know. And I said, I'm not going to sit here and edit somebody's French for a whole bunch of, you know. But she said, okay, do the first three chapters, just to not word for word, but to see whether you think it's working.
Et donc moi j'ai dit non, je ne vais pas tout relire pour critiquer le français ou quoi que ce soit. Et donc elle a dit bon voilà, juste pour voir si ça marche ou pas.
And then the translation was done.
Yes.
And after that I did not read the whole translation in French, I must admit. Maybe I read it later when the book came published, but I felt I could take it no further. Although if there were questions that were specific questions about something, then I would, you know, I would suggest, like for English slang.
Oui, le plus difficile. En fait, ce qu'on a fait avec Roland, c'est qu'il y a, comme il y a quatre narrateurs dans le livre, on avait pris chacun deux narrateurs. Donc moi, j'avais traduit Amanda et j'ai traduit Foxy Loxy, qui est une malheureuse junkie et qui parle de l'anglais oral, retranscrit, pas phonétiquement, mais presque. Donc ça, c'était la partie la plus abominable de la traduction, si je puis dire, et en même temps la plus intéressante, parce que c'était un défi. Donc chacun, on a fait chacun nos premiers jets sur les parties qu'on s'était distribuées. Et ensuite, on a recorrigé ce qu'avait fait l'autre. Ce qui fait que le final de Foxy Loxy, c'est un mélange entre mon travail à moi et le travail de Roland. Parce qu'il avait, il a eu, à force de rentrer dans le texte, il avait eu des idées que moi, j'avais pas eues, et inversement. Mais c'était plus rapide de le faire dans ce sens-là, parce que j'étais plus rapide pour faire le premier G, parce qu'on a quand même des contraintes de temps. Mais c'est quelque chose que j'ai fait une fois dans ma vie, mais je ne le referai plus jamais. D'une part, parce qu'il n'y aura jamais un autre bouquin équivalent, que les choses et les circonstances ne se repasseront plus de la même façon, et que je crois que cette fois-là, je dirais non.
Travailler en collaboration de traduction.
Non, pas de collaborer, de traduire Foxy Loxy, de traduire ce type de langue.
Ah oui, du vernaculaire oral,
voilà,
phonético.
Oui.
Il faut deviner l'anglais d'abord,
voilà,
avant de ensuite essayer de rendre en français.
C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est de l'anglais parlé retranscrit, et il faut savoir à quoi ça correspond en anglais correct. Et sans vouloir me vanter, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et il vaut mieux être jeune.
Alors moi j'aimerais, merci, hein, ça c'est super intéressant. Moi, je suis aussi traductrice, donc du coup j'écoute ce qui se dit, parce que voilà, des fois on apprend encore. Hein. J'aimerais vous interroger tous les deux un peu sur vos outils de travail aussi, mais avant, sur Norman, ta méthode d'écriture à toi, parce que ça c'est les Français aiment savoir, tu sais, 5 millions de Français écrivent sur 80 millions d'habitants, ou déclarent écrire, donc tout le monde est avide. Non, pas de recettes, évidemment, mais quand même de connaître un petit peu la manière dont les grands auteurs comme toi s'y prennent pour écrire. Alors, est-ce que c'est d'abord l'intrigue? Est-ce que c'est d'abord une idée, un thème que tu voudrais traiter? Et ensuite, tu construis une intrigue? Est-ce que c'est d'abord des personnages ou des situations? Comment ça se passe? Et ensuite, les outils, si tu veux.
Well, I don't know. I really don't. And I probably don't want to. What makes a story? A story is a plot of what happens. A story is consciousness of the characters. A good example is the last book that Sylvie translated in my day. The Police de Poipo, right?
Donc, je ne cherche pas à savoir ce qui est une histoire, mais en fait, une histoire, ça vient d'un lieu, ça vient des personnages, d'un événement. Et je crois qu'un bon exemple, c'est le dernier livre qui a été traduit par Sylvie.
Now, when I was planning that book, there was hardly anything about the character of Big Joe Rudy.
Donc, quand je planifiais le livre, quand je prévoyais le livre, quand je regardais, il n'y avait pas grand-chose de Big Joe Rudy.
And he was, just like a minor character or something. And somehow, he took over big pieces of the book.
Et c'était un petit personnage, et je ne sais pas comment, mais d'une certaine manière, c'est lui qui a dominé le livre.
And the other thing is, as far as the translation of that goes, to make it more difficult, there's one character who does a lot of the narrating in first person, who's speaking New Orleans English, which is not quite the same as something else.
Et il y a un des personnages qui fait beaucoup de narration qui a un anglais qui est très très particulier.
And it's to some extent influenced by Cajun French, which isn't all that the same as French.
Qui est influencé par le français cajun, qui non plus n'est pas vraiment un français classique.
So, I always know where the story is going before I start the book.
Donc, je sais toujours où va l'histoire avant de commencer le livre.
I know what the setup is.
Je connais la mise en place.
And I know what the epiphany is.
Et je connais l'épiphanie.
And I don't start a book that I don't know how it's going to finish.
Et je ne commence pas un livre sans savoir comment ça va se terminer.
Because it has, for me, it has to have a structure.
Parce qu'il
that's
faut une structure.
And you have to know where that is.
Il faut que ça aille quelque part et il faut savoir où ça va aller.
Once in a while, I suppose, the story can take it over and argue with you and no, that it can't end that way.
Et parfois, l'histoire va te contredire, va dire, non, je ne veux pas aller par là, je ne veux pas terminer comme ça.
But that rarely happens.
Mais c'est rare.
Et de ton côté, Sylvie, lorsque tu traduis, est-ce que tu fais partie de ces traducteurs qui lisent tout d'abord et traduisent ensuite, ou est-ce que tu es plutôt de l'école spontanéiste, on va dire, celle qui veut rendre un plaisir de lecture et donc garder une forme de, entre guillemets, virginité, et donc traduire, faire un premier jet, comme nous racontait Patrick Marcel, faire un premier jet qui soit vraiment sur le texte, sur tes impressions de l'actrice et pour ensuite le retravailler.
C'est quelque part entre les deux, ça dépend des livres. Un bouquin comme He Walked Among Us, je sais pas combien de fois je l'ai lu en fait, parce que je l'avais probablement lu au moins deux fois à l'époque où j'ai fait l'article, donc autour des années 2000, et j'ai dû le relire par morceaux et même entier trois ou quatre fois pour en parler avec Lila et en parler avec Norman et en parler avec Roland.
Mais avant de le traduire.
Avant de le traduire, ouais. Et c'est quelque chose que je fais de moins en moins en fait. avec les autres auteurs que je traduis. D'une part parce que il y a une question de temps, et il y a aussi effectivement que ça a l'avantage de me permettre de faire un premier jet, pas d'une traite mais presque. En tout cas c'est comme ça que je préfère travailler. Et j'intellectualise pas vraiment ce que je fais quand j'écris ou quand je traduis. Et en fait, quand j'intellectualise, c'est quand je commence à avoir des vraies difficultés. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose, un bout de phrase, un mot, où la conversion se fait pas quasiment automatiquement en anglais. Ça arrive. Je pense que je suis assez de l'école Patrick Marcel du premier G à toute berzingue.
Bon, je poursuis deux secondes avec toi. Au niveau des outils que tu utilises, ça va être plutôt papier, plutôt informatique. Tu es beaucoup sur le net ou tu as une énorme documentation. Tu fais comment ?
Je traduis directement sur écran. Alors que j'écris, quand j'écris mes textes à moi, très souvent je les écris d'abord à la main et je les retape. Du moins en partie. J'ai travaillé avec des dictionnaires papier pendant très très longtemps, et un jour est arrivé Internet, et progressivement les dictionnaires papier ont été remplacés par divers types de dictionnaires qu'on peut trouver, lexiques, etc., sites qu'on peut trouver sur Internet. Ce qui a des avantages et des inconvénients, comme tout.
Et les bouquins, par exemple, de Norman, sont-ils à ce point techniques, enfin, dans le sens science-fiction, technologie, etc., que
non,
tu vas devoir
question,
faire des recherches technologiques
poussées ? La question n'est pas technologique. C'est en général des points de vocabulaire j'arrive plus à retrouver le titre. Enfin, pour la Nouvelle-Orléans, les du peuple. Ce qui me gêne, c'est qui était vraiment une gêne, c'était que j'étais jamais allée à la Nouvelle-Orléans et que j'y suis toujours pas allée et que j'aimerais bien y aller. Donc je m'y suis baladée grâce à Google et grâce à d'autres livres que j'ai lus en même temps, mais d'autres romans, et en faisant des diverses recherches. J'aurais préféré enquêter moi-même sur place.
On peut juste dire deux mots, mais de Police du Peuple, simplement pour dire que, en fait, Norman a anticipé avec ce livre tout ce qui est en train de se passer, finalement, aux États-Unis, autour des émeutes policières, enfin, autour du comportement de la police, puisque, en fait, là, il prend un petit peu le contre-pied. Enfin, si Norman veut en parler un petit peu de... Do you want to talk about police state or... would you like to sum up the plot for the audience? Because I was
the
saying it's just
story
in
the
in
no,
what's going
like
on in the U.S. right now.
Oh.
Yeah.
What's going on in the U.S. right now? Well...
And compared to police state and...
The way this book began was... this was years ago. I read a thing in a newspaper in California where a cop was given the thing... To evict himself from his own house.
Ah. Alors, j'ai lu il y a quelques années une histoire où il y avait un flic en Californie et il devait s'expulser de sa propre maison. Il a reçu l'ordre de s'expulser lui-même.
And I said, there's a story in that.
Je me suis dit, là, il y a une histoire.
But somehow it's a New Orleans story. It's a Louisiana story.
Mais c'est plutôt une histoire de la Louisiane, ça. C'est Nouvelle-Orléans.
Because I had spent some time in New Orleans. I really like New Orleans. I think I understand it as well as one can understand Louisiana.
J'ai vécu à la Nouvelle-Orléans. Je comprends et je pense que je suis capable de comprendre la Louisiane bien que qui que ce soit.
Louisiana, particularly New Orleans, is not exactly the United States.
Alors la Louisiane et surtout la Nouvelle-Orléans, c'est pas vraiment les États-Unis.
And some people would say it's not on the same planet.
Et certains diraient que c'est même pas la même planète.
So I said, this is a New Orleans story. How would you know this? And then, a long time before that, Gene Roddenberry and I. Gene had been a cop. I don't know if people know that.
Donc, et bien auparavant, avec Gene Roddenberry, elle avait Big Cop. Je ne sais pas si vous le saviez.
And I had a column I was running for Ninth magazine, and at that time it was the, you know, the hippies and the blacks versus the cops and all in Louisiana in.
Et je me souviens à une époque,
Los Angeles were like terrible fascists.
Il y avait une histoire, une grande histoire entre les Noirs contre les flics, etc.
C'était en
Californie.
So Gene read the piece, because I had done stuff with Gene besides Star Trek, and we were sort of friends. And Gene said, "Well, I got it. Why don't we try and imagine, come up with a program for the ideal police force."
Et donc, avec Gene, on a parlé de ça, on se connaît depuis longtemps, on était amis et tout ça. Et là, il a dit, mais pourquoi on n'essaie pas d'imaginer une police parfaite?
Une série où il y aurait cette police.
Une série, télé, oui.
And one of the ideas, the central idea, really, although I didn't call it that at the time, and neither did Gene, was the idea that used to be called in those places, no victimless crimes.
Et donc le prémisse
no
central,
victimless crimes.
C'est
in the novel, it's simply say no victim,
victime.
No crime.
Donc, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de crime.
Because you can't. Mais no police force can be any better than the laws it has to enforce.
Parce qu'une police, une force de police, ne peut pas dépasser, ne peut pas être meilleure que les lois qu'elle doit enforcer, qu'elle doit imposer.
And at one point in the novel, Big Joe Rudy, who's the head of the police union, is talking to somebody. He says, you know, every police force is hated by people until they need them.
Et Big Joe, qui était donc il était responsable du syndicat des polices, en fait,
because
il avait dit, tout le monde déteste la police jusqu'au moment à ce qu'ils en ont besoin.
Because what are we doing? We're being a pain in your ass.
Parce qu'on vous fait chier.
Don't do this, don't do that. Here's a ticket for your car. We're going to tow your car away. You can't do this, you can't do that, even if nobody's complaining.
On a le droit de rien faire, même si personne se plaint.
There used to be a joke about cops. A cop arrests somebody for disturbing the peace. And a guy says, whose peace am I disturbing? The cop says, mine.
Il y avait une époque, une blague sur la police pour... Il y a quelqu'un qui se fait arrêter pour tapage et on dit, mais je dérange personne. Et il dit, bah si, tu me déranges moi. Voilà.
So that's the people's police.
Donc c'est ça, la police du
and
peuple.
And it's not sarcastic.
Et c'est pas sarcastique. Hein.
They decide, very, I don't want to go the whole story, I'll give it away, but... So the way that operates to what's going on in the States now, this was written before all this, you know, the Black Lives Matter versus the blue power, and it's not just a cultural war, it's guns.
Et maintenant, il y a ces questions de Black Lives Matter, de blue power, mais en plus, maintenant, il y a aussi des armes.
So the police have to regain the confidence of the people they're supposed to be protecting.
Et donc la police doit retrouver maintenant la confiance de ceux qu'elle est censée protéger.
And what you have now is what's caused this. The police hassle black people because they're afraid that black people are going to shoot them. And the Et black people are afraid of the cops because the cops are enforcing stupid laws which have been called zero tolerance.
Et actuellement, il y a le problème, c'est que les policiers harcèlent les Noirs parce qu'ils ont peur des Noirs, ils ont peur que les Noirs vont les attaquer.
The idea being that if you're
parce que la police, en fait, doit imposer des lois stupides.
The idea being that if you arrest people for... they have a law in New York, don't ask me why, where if you have a beer... A can of beer, you have to have it in a paper bag if you're walking on the street drinking. You must have a paper bag to cover the beer. Don't ask me why.
Et donc, à New York, actuellement, il y a une loi Dieu sait pourquoi, hein, on ne sait pas pourquoi, c'est que si on veut boire une bière en public, il faut que la bière soit cachée par un sac en papier.
And of course the cops don't know why they're doing it either.
Et c'est ridicule, mais les flics, ils ne savent pas non plus pourquoi ils doivent imposer cette loi.
So the idea of the people's police is the police should really be the people's police.
Et donc l'idée de la police du peuple, c'est que la police doit être la police du peuple.
They shouldn't bother anybody.
Ils ne doivent pas embêter les gens.
Unless somebody's complaining.
Sauf s'il y a quelqu'un qui se plaint.
No victim, no crime.
Pas de victime, pas de crime.
That means you don't arrest people for prostitution.
Donc ça veut dire que on n'arrête pas les gens pour la prostitution.
For drugs.
Pour la drogue.
For drinking beer without a paper bag.
Parce qu'on boit de la bière sans avoir un sac en papier.
For disturbing the peace of the cops. Hein, or any of that bullshit.
Donc toutes ces merdes-là.
Now, a long time ago, why this was a New Orleans story, I had gone to Mardi Gras. I had a friend who's Mardi Gras, Fat Tuesday.
Donc il y avait une histoire de Mardi Gras, justement.
Mardi Gras, yes.
Mardi Gras.
Yes. And there was a thing between the hippies and the cops.
Et donc il y avait une histoire entre les hippies et les flics.
But this was New Orleans.
Ah oui, it was New Orleans.
And the cops,
c'était Nouvelle-Orléans.
The cops were picketing for pay raise.
Et les flics, ils voulaient avoir une augmentation de salaire.
Comme chez nous maintenant, ils manifestaient, ouais. Yes. C'est fou.
Yeah, like what's happening about, yeah. So the cops go to the leaders of the countercultural people.
Donc ils sont allés voir les leaders de la contre-culture.
And they say, look, you don't want to be bothered during Mardi Gras.
Et ils ont dit, bon, vous voulez pas être emmerdé pendant Mardi Gras.
If you're smoking joints in the street.
Si vous fumez des joints dans la rue.
You don't want us to bother you.
Là, vous voulez pas être embêté.
We want a pay raise.
Nous, on veut être augmenté.
So the deal is.
Donc.
And it really happened. You had long-haired hippies. Front of City Hall with signs that said pay raise for pigs.
Et donc il y avait des hippies qui étaient devant la mairie en disant c'était une augmentation pour les coffres.
And the cops didn't bother anybody during Mardi Gras.
Et donc pendant le Mardi Gras, les flics n'ont embêté personne.
And they got their pay raise.
Et ils ont eu leur augmentation.
Welcome to Louisiana.
Bienvenue en Louisiane.
So that was the impetus of the novel before all this thing happened. That was about, you know, cultural wars. This is much worse.
Et donc ça c'était l'idée avant tout.
Incredibly
ce qui se
passe
maintenant. C'était la guerre culturelle en quelque sorte.
Because it's with guns, people, you know, every day there's a story in the papers about either some cops killed a black person or some black people shot up the police.
Et donc maintenant c'est avec des armes et tous les jours on lit dans les journaux une histoire d'un policier qui a tué un noir ou un noir qui a tué un policier.
So it ends up with the people being afraid of the cops.
Donc les gens ils ont peur de la police.
And hating the cops.
Ils détestent la police.
And it ends up with the cops being totally paranoid about black people.
Et la police est paranoïaque par rapport aux noirs.
Because they have guns too. This is America, this is not France. Everybody's got a gun.
Et
in fact, many people have more than one gun. I don't
parce
have
que
a gun.
Les États-Unis, c'est pas la France. Les gens sont armés. Hein? Les gens, ils ont même plusieurs armes des fois.
And AK-47s and Kalashnikovs.
Kalashnikov.
So the police are afraid of black people.
Donc la police a peur des noirs.
And black people are afraid of cops.
Et les noirs ont peur des flics.
So the idea of no victim, no crime is there's another New Orleans saying that's all over the book, and that is those who play along get along.
Et donc il y a l'idée de pas de victime, pas de crime. Il y a aussi la loi à Nouvelle-Orléans. Il y a un dicton louisianais, c'est que ceux qui s'entendent s'entendent et ça marche.
And this is not in the book.
Well,
maybe it should be.
C'est ce que j'allais dire.
Je demandais à Sylvie comment elle l'avait traduit. En fait, Norman a entendu et dit ce n'était pas dans le livre cette phrase. C'est dommage.
Non, mais il y en a d'autres.
Mais juste une chose, donc c'est Police du peuple, hein, pour ceux qui ont suivi un peu, c'est chez Fayard. Je demandais à Sylvie comment elle se souvenait d'avoir travaillé sur le Cajun. Et en fait.
Je me souviens pas qu'il y ait eu tant de vocabulaire Cajun que ça.
Ni de difficultés.
Mais ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ont dû accrocher plus.
Oui, là n'était pas la difficulté.
C'était pas le
oui,
il y avait peut-être une difficulté.
Comme une lettre à la poste.
Ça veut dire que j'ai trouvé la solution et que si j'ai trouvé la solution, c'est pas resté dans mon cerveau.
Ce n'est pas un traumatisme qui t'aurait marqué. Non. Ok. On va peut-être passer aux questions de la salle parce qu'il est déjà 50 et que d'ici 10 minutes, on devra se quitter. Alors, on a ici un micro mobile, si j'ose dire. Qui a des questions à poser à Sylvie ou à Norman sur leurs travaux divers et variés, parce que c'est vrai que les cartes sont multiples. J'ai oublié de dire aussi que Norman était aussi l'auteur de nombreux articles sur la science-fiction, des articles de fond qui sont longtemps parus dans Isaac Asimov
qui
magazine,
qui paraissent toujours dans Isaac Asimov, voilà. Et dont hélas pratiquement aucun ne traduit.
Voilà, hélas, parce qu'effectivement il a fait beaucoup avancer la réflexion aussi de ce point de vue. Alors votre question.
Est-ce que le fait de parler...
Parlez fort, excusez-moi, il faut parler fort.
Sinon, on ne vous entend pas, on a le bruit d'à côté.
Is the fact you speak French influence your relation with Sylvie and your other French translator?
Pouvez-vous la poser? On entend...
Est-ce que le fait de parler français influence la relation entre Norman et ses traducteurs français?
Well, yeah, sure.
Absolument.
First of all, because I can serve as a kind of... resource. I know enough French sometimes that I can find the right word in French for the English words.
Ouais, parce que je peux être une sorte de ressource. Je connais suffisamment de français pour parfois trouver le mot qui convient.
It makes a big difference. I think.
Donc je pense que ça joue.
You work closer with the translator. I've worked a little with German translators, but. Yeah, I think I do think it makes a difference.
Ouais, c'est différent, ouais.
A positive difference. As I said, if I had no French, then Lila Seward wouldn't said I have to read the first three chapters in French to see if it was okay by me.
Ouais, je n'aurais pas parlé le français. On m'avait pas demandé de lire les trois premiers chapitres pour voir si ça passait pour moi, quoi.
Oui, parce que c'est, en général, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire parce que l'auteur est aux États-Unis, que les relations passent par les agents. Il se trouve que Norman, lui, était en France et que ça facilitait beaucoup les choses. Sinon, on rencontre, sauf si les auteurs viennent, on les rencontre pas très souvent.
Et je me permets d'ajouter que ça peut même être, c'est pas le cas avec Norman et Sylvie évidemment, mais ça peut parfois être un cauchemar qu'un auteur croit parler une langue, ou la femme ou le mari d'un auteur, ça peut être encore pire effectivement.
Ça, oui, ça m'est jamais arrivé ça.
Oui, bah écoute, c'est arrivé à certains, et pas moi, mais j'en connais. Je ne citerai pas de nom. Là, ça peut être terrible. D'autres questions dans la salle? Je vois tout d'un coup un afflux de. Alors un micro ici.
Bonjour, merci beaucoup de votre présence ici. Voilà, moi j'aurais une question sur la science-fiction. Pardon, une question sur la science-fiction et son utilisation idéologique, puisque comme la science-fiction est une littérature spéculative, souvent elle a été reprise par des progressistes pour justement montrer comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer le monde d'une bonne manière. Or, on constate depuis quelques années qu'il y a une sorte de progressisme obligatoire qui, justement, est-ce que ce n'est pas un paradoxe qu'on veuille faire progresser quelqu'un, mais contre son gré et même parfois contre son intérêt? Donc, par rapport à la science-fiction. Excusez-moi, je suis un peu confus.
Est-ce
and having an agenda, and I think this relates to what happened in the U.S. And,
well, they used to say it's certainly obsolete. If you want to send a message, you know, if you want to send a message, send a telegram.
Ouais, on disait dans le temps, si tu veux envoyer un message, il faut envoyer un télégramme.
You wouldn't send a telegram for anything.
Mais maintenant, c'est totalement dépassé. On n'envoie plus de télégramme.
Unless you're sending money back to Africa.
Sauf si c'est pour envoyer de l'argent en Afrique.
No, but all right, that's a flip answer. But
pour rire, mais bon.
I just wrote something like this. You can say that c'est nécessaire en français de faire ça. C'est la différence dans politique et politique politicienne. This is fairly clear in French.
Ouais,
you really can't translate it into English.
En anglais, la différence est moins claire.
So I think I am not politique politicienne that way.
Donc moi je suis pas pour la politique politicienne.
Unless I am writing essays, political stuff. I write that too.
Sauf si j'écris des essais politiques, ce qui m'arrive.
A little book just came out, which in English was called Raising Hell.
Il y a un petit livre qui vient de sortir.
What was it? Why is it called in French, though? It was called. Anyway, it was about a strike in hell.
Bon, c'est sur la grève en enfer.
Grève d'enfer.
Qui
est un jeu de mots sur le titre français. Rêve de fer, qui est la traduction française de The Iron Dream. So there's a pun in French.
No, this is a job. This is a. In English, it's raising hell. In French, it's a strike in hell.
Yes, but the French title is a pun on the French title of Iron Dream. Rêve de fer, grève d'enfer. Right?
It works. Oh, you can't do that.
En français, ça marche. Hein.
But that thing is a comedy of a kind about a strike in hell, led by all the famous.
Sur une grève en enfer.
All the real famous progressive and even more progressive than progressive union leaders who have died, they're all in hell.
Et donc tous ces syndicalistes progressistes, tout ça, en fait, ils sont en enfer.
So they have nothing else to do but provoke a strike among the demons.
Donc ils ont rien d'autre à faire que de provoquer une grève.
So the demons go on strike.
Les démons, donc les démons font grève.
And the devil has to negotiate.
Et le diable doit négocier.
With some very tough union leaders.
Avec des syndicalistes, mais durissimes.
In the same book is a piece I wrote called The Abnormal New Normal, which is a long political piece. It's not a piece of fiction.
Et il y a une pièce aussi politique très longue, c'est pas de la fiction, qui se trouve dans le même livre.
And I have written a lot of that. I've had a couple of books like that.
I mean,
collections. I wrote columns for the Underground Press. I had a column, a monthly column in a magazine, doing that.
J'ai écrit des articles pour la presse underground pour beaucoup de choses, justement des choses politiquement sérieuses.
Hein. I really try to separate the fiction. Which is engagé. Another thing that you can't really translate very well into English.
Et donc j'essaie de distinguer ma fiction engagée. Engagé étant un mot qu'on ne peut pas vraiment
English,
traduire en anglais.
You know, as a citizen.
En tant que citoyen.
Just as a citizen or as a person, like a carpenter or a bus driver or whatever.
Comme un menuisier ou un chauffeur de bus ou qui que ce soit.
A writer has some kind of civil duty.
Nous avons un devoir en tant qu'auteur aussi. Nous avons ce devoir ce devoir citoyen.
Plus involvement with you know political problems like anybody else.
Et on est impliqué dans des questions politiques comme tout le monde.
And if you're writing science fiction,
et quand on écrit de la science-fiction,
you have even more of a civic duty. To
ce
deal with that,
civique est encore plus important.
Because you can't, in speculative fiction,
parce que la fiction spéculative,
you're creating an imaginary culture.
Là, on crée une culture imaginaire.
And you can't create a culture without a political side to the culture you're creating.
Et on ne peut pas créer une culture sans le côté politique.
So on one side you have, say, blue comme un orange, which is really.
Donc il y a bleu comme une orange d'un côté.
Syndicalist anarchist culture.
Donc c'est une culture simpliste, you have, anarchiste.
I also wrote, of course, Rêve de Fer, where it's a bunch of Nazis.
Il y a Rêve de Fer sur les nazis.
So, either way, I don't think you can write serious speculative fiction without a political element.
Et donc on ne peut pas écrire de la fiction spéculative sans avoir un côté, un élément, une pensée politique.
But what counts is the story.
Mais ce qui compte, c'est l'histoire.
Ok, Norman, merci beaucoup. Sylvie, tu un dernier mot. J'ai encore une minute à tenir, mais Sylvie, tu voulais dire quelque chose là.
Je voulais dire que j'étais absolument d'accord avec Norman sur tout ce qu'il vient de dire.
Y compris en tant qu'auteur.
En tant qu'auteur.
Alors, deux choses. D'abord, j'aimerais remercier, on n'a pas eu l'occasion de le faire les fois précédentes, mais j'aimerais remercier les trois interprètes qui ont, de manière transparente, permis aux auteurs... De se faire comprendre de ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, vous avez ici Bernard Reeves, et il y avait également Odile Lacoste et Bruno Chanteau. Voilà. Et en conclusion, je ne pouvais pas ne pas lire la dédicace qui a été celle de Norman à Roland et Sylvie. Le temps du rêve, il y avait cette dédicace à ses traducteurs, qui est donc la suivante. En hommage à Sylvie Denis et Roland Wagner, traducteur de mes mots, vrai profond collaborateur, adieu à Roland Wagner, c'est aussi pour ça qu'on ne pouvait pas le lire, l'émotion est énorme pour nous. Frère de mon cœur, camarade littéraire, rêveur de gloire et créateur de même, parti de la terre, mais ton esprit jamais. Et pour Sylvie, la vie est trop courte, ton amour est trop grand pour pleurer trop longtemps et ne pas célébrer la joie tous ensemble. Voilà, merci.
Merci.